VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a reporté d'une semaine au 2 juin les élections législatives et communales prévues initialement le 26 mai. Décision confirmée à VOA Afrique par le président de la commission électorale, Pierre Claver Ndayigagire. Selon la présidence burundaise, le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale CENI et répondu aux demandes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Le président Nkurunziza avait auparavant annulé hier soir le message qu'il comptait adresser à la nation, Anne Albertson.
Sans explication, le discours du président burundais sur la radio-télévision nationale a été annulé. Il pourrait avoir lieu ce mercredi soir, mais rien n'est confirmé. Pendant ce temps, le ballet diplomatique se poursuit à Bujumbura. Pierre Nkurunziza a reçu hier le représentant des Nations Unies, Saïd Djinnit, ainsi que deux représentants du panel des sages de l'Union africaine, Edem Kodjo et Ibrahima Fall. Situation sécuritaire, tenue des élections et paysage médiatique burundais, tous les sujets qui fâchent ont été abordés. « Tout est sous contrôle », répète à qui veut l'entendre Pierre Nkurunziza. Dans un message diffusé hier sur Facebook, la présidence burundaise affirme que le gouvernement, ainsi que ses différents services, n'ont et n'auront jamais de plan de vengeance contre les auteurs du putsch.
Au Congo-Brazzaville, nouvelle opération policière Mbata ya Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, contre les étrangers en situation irrégulière. L'opération est en cours depuis jeudi dernier à Pointe-Noire et a déjà entraîné l'arrestation de 1150 suspects, dont 642 ressortissants de la RDC. D'où des protestations de Kinshasa qui s'étonnent que l'opération anticlandestin ait lieu sans que Brazzaville en ait informé. On écoute Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger à Kinshasa.
Nous apprenons que certains de nos compatriotes, surtout dans la ville de Pointe-Noire et de Dolisie aussi, sont sujets à des maltraitances. Bon, nous allons convoquer l'ambassadeur de Congo-Brazzaville ici à Kinshasa pour leur faire part de nos préoccupations. Mais nous gardons l'espoir que tout va s'arranger et nous espérons que tout finira par s'arranger. Mais le mieux, c'est de contacter le gouvernement de la République, nous contacter pour nous dire, voilà, nous voulons mener telle politique. Il y a certains de vos compatriotes qui sont dans le cas et nous allons prendre les dispositions utiles.
Le vice-ministre Antoine Boyamba au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Congo-Brazzaville toujours, le président Denis Sassou Nguesso commence aujourd'hui des consultations sur la vie de la nation et de l'État. Un dialogue avec les forces vives du pays, qualifié par l'opposition de manœuvre pour modifier la constitution et rester au pouvoir après 31 ans de règne. Plus de détails avec l'opposant congolais Mathias Zon, président de l'Union politique pour le renouveau national, au micro d'Idriss Fall.
Nous lui avons demandé plutôt un dialogue national sur la gouvernance électorale et l'alternance en 2016. Il n'a jamais répondu. Voilà que, de façon inattendue, il a fait publier un communiqué demandant des consultations des acteurs politiques, de la société civile, des organisations religieuses et même des institutions constitutionnelles. Bon, nous pensons qu'il s'agit d'un manège. Nous ne répondons pas à ça. Le président Denis Sassou Nguesso doit finir son deuxième et dernier mandat. Tout le problème qui se pose au Congo, c'est comment assurer une succession normale et une sortie apaisée pour lui, sans heurts. Alors, les consultations, nous les considérons comme un piège et nous, l'opposition congolaise, nous avons proposé un refus à cela.
Pourquoi dites-vous que c'est un piège?
Oui, c'est un piège parce que nous connaissons la manœuvre. Le président Sassou, quand il aura reçu tout le monde, et seulement après, il va dire oui, voilà, la classe politique, les associations de la société civile, les organisations religieuses sont d'accord pour qu'on fasse une réforme des institutions. Et la réforme des institutions, c'est quoi? C'est le changement de la constitution et on va aller au référendum. Or, nous ne voulons pas de cela. Il a fini, il doit partir.
Et qu'est-ce que vous proposez donc?
Et nous proposons un dialogue national inclusif où la classe politique va s'asseoir, va préparer les conditions d'aller aux élections. Alors, quelles sont les conditions d'aller aux élections? Il faut refaire le recensement administratif pour déterminer un corps électoral fiable. Depuis 2002, on n'a pas de corps électoral. Tout se fait à la merci, au bon vouloir du chef. Alors, il faut dissoudre la commission électorale actuelle qui n'est qu'un instrument aux mains du président de la République. Mettre en place une vraie commission électorale indépendante, composée de façon paritaire. Il faut refaire le découpage électoral. Il faut prendre une loi électorale juste, au lieu de la loi unique actuelle qui ne favorise que les candidats du PCD. Voilà pourquoi nous avons une Assemblée nationale qui est plutôt nommée au lieu d'être élue. Si jamais on va à ce dialogue, de façon consensuelle, tout le monde, y compris les partisans de Denis Sassou Nguesso, nous aurons décidé sur ce qui est acceptable par tous. Et nous irons aux élections. Mais ce qu'ils nous proposent là, c'est encore la malice habituelle, la ruse. Nous ne pouvons pas l'accepter.
Mathias Zon, président de l'Union politique pour le renouveau national, joint à Brazzaville par Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, la société civile monte au créneau pour obtenir la libération de Moussa Tchangari, le leader d'Alternative Espace Citoyen, détenu depuis lundi dans les locaux de la brigade antiterroriste à Niamey, sans aucune explication de la part de la justice nigérienne. Moussa Tchangari avait récemment critiqué la situation humanitaire dans le sud-est du pays, où les forces armées nationales combattent les islamistes nigérians de Boko Haram. On écoute Ibrahim Yori de la société civile nigérienne.
Nous, acteurs et organisations de la société civile nigérienne, exigeons la libération sans condition et sans délai du camarade Moussa Tchangari et toutes les personnes arbitrairement arrêtées. Condamnons la tendance démocraticide du moribond gouvernement de la 5e République de plus en plus visible. Lançons un appel vibrant à une mobilisation générale pour stopper net la dérive autoritaire de ce gouvernement moribond, notoirement incapable d'accéder aux revendications légitimes du peuple nigérien.
Ibrahim Yori de la société civile nigérienne. La guerre contre le groupe État islamique en Irak, le président Barack Obama a réaffirmé mardi le ferme soutien des États-Unis au premier ministre irakien Haider al-Abadi et au plan de Bagdad de reconquérir la ville de Ramadi tombée dimanche aux mains des djihadistes de l'État islamique. Mais Washington reconnaît que la tâche ne sera pas facile. Jean-Roger Bion.
Selon le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone, reprendre la capitale de la province d'Anba est devenu un plus grand défi parce que les forces de sécurité irakiennes ont laissé derrière une vaste gamme d'équipements militaires américains quand elles ont fui dimanche plutôt que d'affronter les combattants de l'État islamique. La chute de Ramadi a valu de vives critiques au président Barack Obama et à sa politique en Irak qui inclut des frappes aériennes contre les militants du groupe État islamique, mais pas d'engagement de troupes américaines au sol pour aider les Irakiens. Pour citer le républicain John Boehner, président de la Chambre des représentants, le plan du président ne marche pas. Il est temps qu'il propose une stratégie globale pour éliminer cette menace terroriste. Mais le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a renvoyé la balle au Congrès. Que contrôlent les républicains pour n'avoir pas donné au président Obama la nouvelle autorisation qu'il a réclamée pour faire face au groupe État islamique?
La chute de Ramadi aux mains des djihadistes de l'État islamique est un coup dur non seulement pour Bagdad, mais aussi pour Washington et la stratégie américaine dans le conflit irakien. L'analyse de Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès des États-Unis, au micro de Timothée Donangmaï.
Il y a eu plusieurs fautes stratégiques qui ont été commises de la part, bien sûr, du gouvernement irakien, mais aussi de la coalition internationale. La première faute a été de ne pas constituer une force sunnite, modérée, arabe, qui aurait des brigades, et non pas seulement des milices, des tribus. Et ces brigades auraient été les forces nécessaires pour repousser les forces djihadistes. Parce que Ramadi se trouve dans une zone sunnite, et donc quand on a envoyé des régiments à majorité chiite, la population a été frustrée. Et donc c'est la population qui a permis, en fin de compte, à ces forces-là, à ces forces de l'État islamique, de se déployer sans beaucoup de résistance. La deuxième faute a été de ne pas coordonner avec les puissances arabes régionales, la Jordanie, la Saoudie, l'Égypte et toutes ces forces, qui, elles, auraient pu soutenir un mouvement dans les zones sunnites de l'Irak, comme l'Iran est en train de soutenir les chiites dans les zones chiites de l'Irak. Donc, je pense qu'il va y avoir maintenant une revue exceptionnelle à Washington et dans les capitales arabes pour pouvoir prévoir les mouvements futurs de l'EI.
Avec ce revers, le gouvernement irakien fait appel aux milices chiites, notamment, pour lancer l'offensive. Comment voyez-vous la suite?
Moi, je pense que lancer les milices chiites à plein fouet contre l'État islamique va créer encore des heurts sectaires entre les sunnites et les chiites. Et ceux qui vont en fait profiter vont être les milices djihadistes.
Le professeur Walid Fares à Washington. Et pour terminer, le calvaire des boat people dans le sud-est asiatique, la Malaisie et l'Indonésie annoncent aujourd'hui qu'elles ne refouleront plus vers le large les bateaux des migrants en perdition et qu'elles leur accorderont plutôt un refuge provisoire. Décision qui fait suite à une réunion des ministres des Affaires étrangères de Thaïlande, Malaisie et Indonésie sur le dossier des migrants. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de